VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Morgane Guerriac et Anastasie Tudiech en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 8 avril 2016. Au sommaire ce soir, Morgane.
Au Tchad, dernier jour de campagne avant la présidentielle du 10 avril.
Toujours au Tchad, une nouvelle rébellion, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad vient de voir le jour.
À Djibouti, l'élection présidentielle, c'était aujourd'hui.
L'un des suspects clés des attaques de Paris en novembre, interpellé aujourd'hui à Anderlecht.
Migrants, accord Union européenne-Turquie, 124 migrants renvoyés de Grèce aujourd'hui vers la Turquie.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Dernier jour de campagne au Tchad avant la présidentielle du 10 avril. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Plusieurs meetings ont eu lieu cet après-midi ici à N'Djamena. Le président sortant Idriss Déby a demandé à ses militants réunis dans le stade Idriss Ouya de l'aider à faire un coup KO, synonyme de victoire dès ce premier tour. Le leader de l'opposition, Saleh Kessago, lui qui est en ce moment son dernier meeting ici à la place de la nation. Finalement, Idriss Déby sera face à 12 autres candidats. Mahamat Brahim Yesko a annoncé hier son désistement à son profit au nom de l'unité nationale face aux défis sécuritaires. N'Djamena a retrouvé ce vendredi l'ambiance de la campagne après les échauffourées de la veille suite au procès de 4 des 5 leaders de la société civile. La grève générale qui paralyse l'administration et les hôpitaux se poursuit toujours et la société civile qui exige la libération de ses responsables et le retrait de la candidature de Déby n'a jusque-là pas donné de consignes pour le vote. Le dimanche, plus de 6 millions de Tchadiens sont appelés à voter d'environ 18 000 bureaux de vote à travers le pays. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sur le plan sécuritaire sont prises pour le bon déroulement du vote. Selon la Commission nationale électorale indépendante, tout le matériel nécessaire a été convoyé dans les différents bureaux de vote pour le bon déroulement de ce scrutin. N'Djamena Bagassi Koura pour VOA Afrique.
On reste au Tchad où une nouvelle rébellion, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, vient de voir le jour. C'est ce qu'annonce un communiqué reçu par l'AFP. Le mouvement politico-militaire créé à Tanoua dans l'extrême nord à la frontière avec la Libye dit avoir fondé une base forte de 1500 hommes. Cette rébellion est une branche dissidente de l'ex-Union des forces pour la démocratie et le développement, l'UFDD, du général Mahamat Nouri.
Les Djiboutiens choisissaient leur président parmi 6 candidats aujourd'hui. Le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, est presque certain d'être reconduit. Le point avec Idriss Fall.
Quelques 187 000 électeurs sont appelés aux urnes dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Les résultats attendus dans la soirée seront sans surprise. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, dit IOG, est largement favori. Âgé de 68 ans et au pouvoir depuis 1999, M. Guelleh brigue un quatrième mandat de 5 ans. Il est opposé à 5 candidats, dont 3 indépendants. L'opposition qui avait réussi à se rassembler pour les législatives de 2013 au sein de l'Union pour le salut national se présente en rang dispersé. L'USN n'a pas pu s'entendre sur une candidature unique. Elle a donc 2 candidats, Mohamed Daoud Chehem et Omar Elmi Kairek. 3 partis de position, dont le MRD de Daher Ahmed Farah, ont décidé de boycotter le scrutin, dénonçant une mascarade électorale.
Au Burundi, un nouvel assassinat hier soir. Un capitaine de l'armée a été tué près de chez lui dans le quartier de Kamenge, au nord de Bujumbura. C'est le 6e militaire assassiné depuis le début de la crise qui a suivi la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat.
Présidentielle en République démocratique du Congo, Kinshasa accuse les Nations Unies et l'opposition d'irresponsabilité en continuant d'appeler à la tenue du vote d'ici à la fin de l'année, évoquant les violences ayant suivi les scrutins législatifs et présidentiels de 2006. Le ministre des Affaires étrangères congolais, Raymond Tshibanda, estime que la qualité des élections importe plus que la date de leur tenue.
Nous avons évoqué la question, bien entendu, du mandat de la MONUSCO et de l'avenir de la MONUSCO dans notre pays. Nous ne sommes pas du tout particulièrement perturbés par la résolution 2277, parce que nous ne trouvons pas dans cette résolution un développement de nature à représenter de nouvelles préoccupations par rapport à celles que nous gérons depuis quelque temps. Bien au contraire, moi je note le fait que les lignes sont en train de bouger. Mais vous savez, les Nations Unies, c'est comme un grand paquebot en pleine mer, lancé à grande vitesse. Quand il amorce un tournant, ça prend du temps pour qu'il tourne. Mais je peux vous garantir que le tournant est déjà amorcé. Donc, en tant que gouvernement, dire que nous sommes satisfaits aurait été dire la tâche est accomplie. Non, nous allons continuer à travailler. Le plus important pour nous, c'est que la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas remise en cause. Et qu'en dernier ressort, c'est le peuple de ce pays, ce sont les dirigeants de ce pays qui décident de l'avenir de ce pays.
Le vice-président kényan William Ruto, qui a vu les poursuites à son encontre abandonnées mercredi par la Cour pénale internationale, a dénoncé aujourd'hui des accusations montées de toutes pièces et promis d'œuvrer à la réconciliation dans son pays. John Lyndon.
Monsieur Ruto, 49 ans, était poursuivi pour des persécutions, des déportations et des meurtres commis durant les violences qui avaient accompagné la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga qu'il soutenait en décembre 2007. Ces violences avaient fait plus de 1300 morts et 600 000 déplacés selon l'accusation. Mercredi, la CPI a abandonné les poursuites contre lui et son co-accusé, faute de preuves, dans une procédure marquée par de nombreuses subornations présumées et rétractations de témoins. Un juge a même évoqué des ingérences politiques. Dans une déclaration lue à la presse, la première depuis la décision de la CPI, William Ruto a retorqué ce vendredi, et je cite, « Les poursuites contre moi ne se sont pas effondrées à cause de témoins ou de manœuvres politiciennes, mais parce que je suis innocent. » Les allégations proférées à mon encontre sont des actes criminels d'esprit mauvais qui ont conspiré. Fin de citation. La procureure de la CPI avait dénoncé jeudi une campagne acharnée d'intimidation de témoins pour expliquer l'abandon des poursuites.
À Madagascar, le Premier ministre Jean Ravelonarive a présenté sa démission et celle de son gouvernement. C'est ce qu'annonce la présidence, mesure qui fait suite à un conflit l'opposant au chef de l'État, Eri Rajaonarimampian.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, l'homme au chapeau, activement recherché par les enquêteurs belges et français, aurait été arrêté. Mohamed Abrini, l'un des suspects clés des attaques de Paris en novembre, a été interpellé aujourd'hui dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. L'enquête sur les attentats du 22 mars à Bruxelles a donc rapidement révélé qu'une même cellule franco-belge a orchestré les attentats de Paris et ceux de la capitale belge. Abrini est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans la préparation des attentats parisiens qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés.
Deux personnes ont été tuées par balle aujourd'hui au Texas sur la base aérienne militaire de Lackland. La porte-parole des autorités policières a affirmé à l'AFP que la situation est sous contrôle, sans toutefois confirmer le suicide du tireur, qui selon certains médias relayés par l'AFP, était un soldat ayant abattu son supérieur hiérarchique avant de se suicider. La base aérienne de Lackland, propriété de l'USS Air Force, a de son côté précisé dans un communiqué que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un attentat.
Après ses entretiens à Bahreïn avec les ministres des Affaires étrangères du Golfe, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué aujourd'hui une visite non annoncée à Bagdad. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie américaine a eu des entretiens avec son homologue irakien Ibrahim al-Jafarai, le premier ministre Haider al-Abadi, ainsi que Nechir Bavan Barzani, président de la région autonome kurde. S'adressant à la presse, à l'ambassade américaine à Bagdad, John Kerry a affirmé être venu réitérer le soutien des États-Unis aux autorités irakiennes. Il a dit avoir clairement expliqué au président Abadi la nécessité de stabiliser l'Irak afin que les opérations militaires et autres ne soient pas affectées. Le groupe État islamique est clairement en train de perdre du terrain, de perdre des chefs, de perdre des combattants, de perdre de l'argent. Et donc, sans surprise, ses membres sont aussi en train de perdre espoir, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. John Kerry a promis que la coalition internationale, pilotée par les États-Unis, va, avec les autorités irakiennes, augmenter encore plus la pression sur l'État islamique. Nous continuerons à cibler et à éliminer des dirigeants de Daesh, a-t-il ajouté.
La Turquie et Israël embrouillent depuis 2010, se sont entendus pour finaliser rapidement un accord de normalisation de leurs relations. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités d'Ankara au terme d'une nouvelle session de négociations à Londres. Les analystes suggèrent que le désir de rapprochement manifesté par Ankara a été accéléré par la crise diplomatique avec la Russie autour de la guerre en Syrie, avec un intérêt particulier pour les réserves de gaz israéliennes, Moscou étant le principal fournisseur d'hydrocarbures d'Ankara.
124 migrants ont été renvoyés de Grèce aujourd'hui à nouveau vers la Turquie, en grande majorité des Pakistanais, en application de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Cet accord vise à endiguer le flux migratoire vers l'Europe. Signé à Bruxelles le 18 mars, mais critiqué par l'ONU et des ONG, l'accord Union européenne-Ankara prévoit le retour en Turquie de tout migrant arrivé en Grèce à partir du 20 mars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jacques Aristide.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, dément le lancement d'un billet de 50 000 francs CFA à partir du 30 avril de l'année en cours. Dans un communiqué publié sur son site internet, la BCAO relève que depuis le vendredi 1er avril, des articles diffusés dans la presse en ligne ont annoncé la mise en circulation de cette coupure. Des articles illustrés par une image qui représenterait le nouveau billet. Mais cette information est inexacte, affirme la BCAO, qui appelle le public à la plus grande vigilance quant à toute exploitation d'une telle information. Bilan morose pour la Société financière africaine, la SFA, une institution multilatérale basée à Lagos, au Nigeria. La SFA accuse une baisse de 38% de son résultat global pour l'année écoulée, tel que le rapporte le site de Financial Afrique. Les chiffres d'affaires de la SFA sont ainsi passés de 113,9 millions de dollars en 2014 à 70,3 millions de dollars en 2015. Cette réduction est due à la chute des prix mondiaux des matières premières, notamment le pétrole, les minéraux et les matières premières agricoles. Et au Cameroun, une femme à la tête de la Commercial Bank of Cameroun, Anne-Rose Bongo, a été nommée administrateur provisoire de la CBC par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en remplacement de Martin Luther Nganga Njo. Celui-ci est poursuivi pour détournement de deniers publics pour plus de 3 milliards de francs CFA.
C'était la Minute Éco. Merci Jacques Aristide.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Les huitièmes de finale aller de la Ligue africaine des champions se disputent ce week-end.
Oui, dès demain, les Young Africans, le club tanzanien contre Al Ahly d'Égypte, l'ASEC Mimosa qui accueille Al Ahly de Tripoli, Al Merrikh contre Sétif, le Zamalek d'Égypte contre Béjaïa, le club algérien, et puis le Stade Malien qui accueille à Bamako le Zesco United de Zambie. Le tout-puissant Mazembe, lui, sera en déplacement au Maroc, chez le Wydad Casablanca. Dimanche, l'AS Vita Club, l'autre club congolais, recevra les Mamelodi Sundowns, le club d'Afrique du Sud. Enfin, Enyimba du Nigeria qui accueillera l'étoile sportive du Sahel, le club tunisien.
Autre compétition, la Coupe de la Confédération.
Dès ce soir, au Maroc, le FUS Araba contre le SC Villa, le club ougandais. Le Zanaco de Zambie, samedi, affrontera le Stade Gabésien, le club tunisien. Et puis le MC Oran, le club algérien, contre le CAC de Marrakech. Le CS Constantine contre le Misr Makassa. Et puis dimanche, Tunis ira en déplacement chez Azam FC, le club tanzanien. Le CF Mounana, le club gabonais, contre MPP d'Égypte. Le club congolais du V-Club Mokanda face au club angolais du GD Sagrada Esperanza. Et enfin, Al Ahly Shendi du Soudan contre Medeama, le club ghanéen.
En Europe, ouverture de procédures disciplinaires contre Dortmund et Liverpool.
L'UEFA a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre les deux clubs. Dortmund est mise en cause pour blocage d'escalier et Liverpool pour usage de fumigène de la part de ses supporters. Par ailleurs, l'UEFA a ouvert une autre procédure à l'endroit du Sparta de Prague, dont les supporters sont soupçonnés d'avoir causé des troubles à l'ordre public à Villarreal.
Et enfin, NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Après avoir subi deux défaites à domicile en 4 jours et donné d'inquiétants signes de fatigue, Golden State a envoyé un message sans équivoque au reste de la NBA en dominant San Antonio 112-101. Les Chicago Bulls ont eux besoin d'un miracle pour disputer les playoffs après leur nouvelle défaite sur le parquet de Miami 106-98. Autre cas d'or au bord de l'élimination, Houston qui s'est incliné à domicile contre Phoenix 115-124. Atlanta a battu Toronto 95-87. Sacramento s'est incliné devant Minnesota 97-105.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Anastasie Tudiech en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, Morgane, le Cameroun.
Voilà plusieurs semaines que le gaz domestique manque dans plusieurs foyers. Le produit de SCTM, pardon, la marque la plus répandue, est introuvable dans les boutiques et les magasins, au grand désarroi des ménagères qui ont opté pour des palliatifs tels que le feu de bois. De Douala, le reportage d'Ide Sandrine Yanga.
L'image est saisissante. Hommes et femmes, des bonbons de gaz sur la tête ou sur une moto, en longueur de journée dans les rues de Douala, à la recherche des bouteilles de gaz domestique. Le produit est de plus en plus rare. Ces 3 derniers mois sont particulièrement difficiles pour les ménagères qui parcourent sur de longues distances, boutiques et magasins, à la recherche de ces bouteilles de gaz domestique en vain.
Je vais ici, je prends le taxi, on me dit qu'on a vu quelques bouteilles dehors. Je prends le taxi, je cours, j'arrive, on dit que rien.
J'ai marché partout avec la bouteille de gaz.
J'ai pris la bouteille, j'ai fait le tour, je suis rentrée jusqu'à 22 heures à la maison. J'ai déjà dépensé l'argent de moto.
Depuis lors, elles ont trouvé d'autres palliatifs pour la cuisson en l'absence des bouteilles de gaz de couleur orange appelées SCTM. Le bois et le charbon devenant prisés, à défaut de dépenser environ 30 000 francs CFA pour acquérir une nouvelle bouteille d'une autre marque.
J'ai donc utilisé le charbon. Ça a commencé à noircir la maison de Trouille. J'étais obligée d'aller prêter une bouteille de... Où c'est Camgaz, c'est ça? Oui, et la personne viendra chercher sa bouteille d'ici peu. Je ne sais pas comment je vais faire.
On s'est replié au feu de bois et puis le bois aussi est cher. J'achète un fagot de bois à 1000 francs, je fais un repas.
Sur les raisons de cette pénurie de gaz, difficile d'avoir des explications de l'entreprise concernée. Les revendeurs assaillis par les ménagers tentent de justifier la situation. Clovis Talom explique.
On nous a fait comprendre que SCTM a des problèmes avec Tradex. Plus c'est Tradex qui importe le gaz. Or, SCTM a pris le gaz, ils n'ont pas payé.
C'est donc clair, la pénurie est là, elle intervient au moins une fois chaque année et se généralise dans tout le pays, embarrassant les usagers.
J'ai pensé acheter l'autre bouteille, mais c'est beaucoup cher, c'est pas facile.
L'ancienne bouteille là, je ne sais pas comment je vais faire avec, ça c'est à jeter.
Jeter sa bouteille, une option déconseillée par des spécialistes. Dizé Yimkwa est environnementaliste.
Une bouteille de gaz vide ne doit pas être rejetée dans la nature, parce que ces gens de déchets, ces déchets industriels, c'est de la fonte qui n'est pas recyclable parce qu'il contient un taux de carbone assez élevé.
La vente, la production et la distribution du gaz domestique restent un des secteurs peu maîtrisés par le gouvernement camerounais. En 2015, l'ancien ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Emmanuel Bondé avait décidé de suspendre la délivrance des autorisations de vente de gaz. Mais à l'observation, le désordre continue de régner. Ide Sandrine Yanga, Douala, Cameroun, Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et toujours au Cameroun, à Yaoundé, cette fois-ci, les ministres des Finances de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, utilisant le franc CFA, se réunissent demain avec leur homologue français Michel Sapin. Il s'agit de faire le point sur la situation économique et la question de l'avenir du franc CFA pourrait revenir sur le tapis. Ce débat récurrent depuis la création de la monnaie il y a 70 ans a été relancé en 2015 par le président tchadien Idriss Déby Itno, qui avait appelé les pays à se doter de leur propre propre monnaie. Pour en parler, John Linden, adjoint à Yaoundé, l'économiste Dieudonné Essomba.
Le projet d'une monnaie commune africaine date de 1963, il n'a jamais évolué. Aujourd'hui, il revient, mais on ne voit pas une démarche opérationnelle. Ensuite, on a vu avec l'exemple de l'euro qu'une monnaie commune ne s'applique que dans un système fédéral. Or, l'Afrique est encore très loin de la fédération. Est-ce qu'on va attendre tout ce temps-là pour résoudre le problème monétaire africain? Non. C'est pour ça que j'ai proposé la binarisation du CFA. Donc on abandonne ces autres solutions qui paraissent très spéculatives.
Qu'est-ce que vous entendez par binarisation du CFA?
La binarisation, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis avec la célèbre du rappel Ithaca. Ithaca a créé une monnaie qui circule à l'intérieur d'Ithaca concurremment avec le dollar. Ce que je propose donc, par exemple dans un pays comme le Cameroun, c'est une mission d'un pouvoir d'achat qui fonctionne concurremment avec le CFA. C'est un système, par exemple, la Suisse a un système comme celui-là. C'est un système bien construit sur ce modèle-là, est beaucoup plus adapté à notre situation économique actuelle qu'une monnaie purement souveraine.
Les pays africains ont-ils la discipline budgétaire et fiscale nécessaire pour gérer une monnaie autonome?
La gestion d'une monnaie est au-delà des problèmes de discipline budgétaire et fiscale. Non seulement il faudrait une discipline à ce niveau, mais il faudrait aller au-delà, parce que la gestion d'une monnaie relève plutôt de la macroéconomie. Donc, même s'il y a cette discipline, dès lors que les fondamentaux macroéconomiques ne sont pas bons, le problème de la gestion d'une monnaie est toujours très, très difficile. Parce qu'une monnaie dans un pays sous-développé est confrontée à deux exigences concrètes. La première exigence, c'est la stabilité, ce qui l'oblige à s'aligner sur des grandes monnaies internationales. Et la deuxième condition, c'est la possibilité de la dévaluer. Donc, ces deux exigences sont absolument contradictoires. Et qui fait qu'une monnaie dans un pays sous-développé est toujours un phénomène très, très difficile à gérer.
L'économiste Dieudonné Essomba, joint à Yaoundé par John Linden.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'Afrique est citée en exemple dans les nouvelles directives sur la famille et le mariage du pape François. Dans le document Amoris Laetitia, soit la joie de l'amour, publié aujourd'hui, le souverain pontife écrit que dans plusieurs pays africains, la sécularisation n'a pas affaibli certaines valeurs traditionnelles et que dans chaque mariage se réalise une forte union entre deux familles élargies. Dans ce même texte, réalisé après deux synodes profondément divisés, le pape tend la main aux divorcés remariés et reconnaît la valeur de certaines unions libres, mais maintient le statu quo sur les homosexuels, dont l'Église catholique ne reconnaît pas les unions. Pour un décryptage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Albert Mianzoukouta, journaliste à Radio Vatican.
Le pape insiste beaucoup sur le fait que la société évolue. L'institution du mariage, elle, doit rester quand même comme une sorte de boussole qui n'aille pas dans tous les sens et n'embrasse pas toutes les commodités du moment, sans toutefois renier le besoin de s'adapter aussi aux défis nouveaux qui se posent, qui sont notamment dans l'hésitation des jeunes aujourd'hui à s'engager dans une union pleine et durable. Il parle aussi de ces unions brisées, finalement à mi-parcours, ou de la difficulté à continuer et donc finissent par la recherche du divorce. Il parle également de toutes les autres formes de mariage qui engage bien entendu un homme et une femme. Il parle notamment, et cela est un peu surprenant et à la fois rafraîchissant, de l'expérience du mariage en Afrique qui inclut trois étapes bien particulières. Donc le mariage traditionnel, celui devant l'État et celui devant les autorités de l'Église, quelle qu'elle soit, catholique, protestante ou autre.
Mais le pape a-t-il expliqué pourquoi les nouvelles directives sur la famille maintiennent le statu quo sur les homosexuels?
Alors voilà, d'abord parce que, évidemment, la constance de la doctrine de l'Église sur cette question n'a jamais varié d'un iota, c'est-à-dire au-delà de toute l'ouverture dont fait montre le pape actuel, un pape moderne, qui dit ne pas venir sur la place publique pour juste distribuer des condamnations, l'Église reste attachée au fait que le mariage implique forcément et nécessairement l'idée de procréation. L'Église catholique, d'ailleurs, ne parle pas de mariage homosexuel, mais d'union homosexuelle, et elle le fait avec, j'allais dire, quelques pincements des nez, si on peut se permettre cette trivialité.
Pour revenir à l'Afrique, que vont changer ces nouvelles directives sur la famille pour l'Église catholique sur le continent ?
En lisant ce document du pape, on est en fait parcouru par une sorte d'enthousiasme, en tout cas concernant l'Afrique, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la forme africaine du mariage qui impliquait les trois étapes dont nous avons parlé, donc le traditionnel, l'étatique et le religieux, eh bien, était boudée un tout petit peu par les prélats européens ou occidentaux. Mais ici, donc, pour l'Afrique, je crois que le terrain est ouvert pour que les pasteurs, comme il le dit lui-même, le pape, dans le document, eh bien, puissent accompagner les couples qui veulent s'unir dans le respect l'un de l'autre, dans la fidélité, dans l'amour, en se passant ou en allégeant toutes les formules qui faisaient en sorte qu'on tourne autour d'une bureaucratie qui pouvait parfois décourager les moins résolus.
Voilà, c'était Albert Mianzucuta, journaliste à Radio Vatican, joint à Rome en Italie.
Les législateurs américains et les autorités sanitaires internationales mettent en garde contre le siphonnage des fonds pour Ebola au bénéfice de la lutte contre le virus Zika, au lendemain d'une annonce de l'administration Obama en ce sens. Les dangers et les défis que continue de poser Ebola ont fait l'objet d'une audience au Sénat jeudi. Nathalie Barge nous en dit plus.
Ebola a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2014 et 2015 et reste une menace, selon le sénateur démocrate Ed Markey. Bien que les nouveaux cas d'Ebola aient considérablement diminué, le virus est encore présent et les conditions qui en ont fait une épidémie persistent. Mercredi, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle transférera près de 600 millions de dollars de fonds, en grande partie des ressources Ebola, pour combattre le virus Zika, qui se propage rapidement en Amérique. Un mauvais calcul, selon Sophie Delaunay, de Médecins sans frontières. S'il s'agit de passer d'une priorité à l'autre, alors c'est inquiétant, parce que l'une des leçons que nous avons apprises d'Ebola est que nous devons être prêts, ça va revenir. L'administration Obama dit être obligée de transférer des fonds pour Zika parce que le Congrès n'a pas approuvé une demande de 1,9 milliard de dollars pour répondre à la maladie transmise par les moustiques. Quoi qu'il en soit, le sénateur républicain Jeff Flake dit qu'Ebola ne doit pas être ignoré. L'épidémie a anéanti les systèmes de soins de santé déjà faibles dans trois pays touchés. Elle a également continué de faire des ravages sur leurs économies, ce qui complique le rétablissement pour les institutions gouvernementales et entrave un retour à la normale. Le démocrate Chris Coons a noté que le virus Ebola est loin d'être éradiqué. Il y a un réservoir animal de virus Ebola qui a probablement été actif en Afrique de l'Ouest pendant 40 ans, comme nous l'avons découvert. Il y a probablement eu toute une série de petites épidémies dans les villages reculés dont le reste du monde n'a jamais eu connaissance. Et il y a bien sûr la possibilité que ce virus se mute et devienne plus mortel. Les autorités sanitaires ont exhorté les législateurs à adopter une approche globale pour la lutte contre les épidémies, plutôt que le financement fragmentaire quand les situations d'urgence surviennent.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Nick Ivanov à la console. À la présentation, Morgane Guiriec et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez-nous des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.